Nous parlons ce matin des chiens de protection des troupeaux, qu'on appelle communément les patous, pour vous donner quelques clés de compréhension sur ces chiens donc, que l'on croise souvent lors de nos balades et face à qui on ne sait pas toujours comment se comporter. Et on va en parler avec Maëva Donadieu, qui est technicienne pastorale de l'ADEME. Bonjour Maëva.
Bonjour.
Donc l'ADEME, qui est l'Association départementale d'économie montagnarde de la Drôme. Qu'est-ce que c'est finalement, Maëva, que l'ADEME, et quel est son rôle concernant plus particulièrement les chiens de protection ?
Alors donc, en effet, vous avez bien décrit ce que signifie ADEME. Plus simplement, c'est le service pastoral de la Drôme. Donc on retrouve des services pastoraux dans différents départements, en Isère, Savoie, Haute-Savoie. Donc l'ADEME, c'est pour la Drôme. Donc notre rôle, c'est d'intervenir sur le territoire drômois auprès des éleveurs, des territoires, communautés des communes, communes, pour travailler au développement du pastoralisme. Donc le pastoralisme, l'utilisation des surfaces pastorales qu'on retrouve, que ce soit en alpage, en estive ou au niveau des fermes, les parcours, voilà, donc différentes choses. Sur les chiens de protection, on a en effet parmi notre liste de missions la sensibilisation par rapport aux chiens de protection auprès notamment du grand public. On intervient, on fait au moment de la fête de la transhumance, on fait des points d'information sur les chiens de protection. On intervient aussi dans des classes à Valence avec Valence Roman Aglo. Donc on parle du pastoralisme en général et aussi des chiens. Et de manière générale, quand on peut, on intervient sur les chiens. On a le programme MECP, du coup, qui est mon expérience avec les chiens de protection de troupeaux, qui permettait aussi d'avoir des informations sur les chiens. Ça a été lancé en 2019 avec le but était de comprendre comment se passaient les rencontres entre les chiens et les randonneurs. Au fur et à mesure des années, le questionnaire, qui est un framaforme en ligne, c'est plutôt spécialisé dans la remontée d'informations quand il y a eu une morsure et ce qui permet après d'avoir un suivi. Donc au niveau du territoire, l'ADEME, on a l'information, ainsi que la DDT, Direction départementale des territoires, et la DDPP. Donc ce qui permet d'enclencher un suivi parce que quand il y a une morsure, il y a différentes étapes. Nous, on rappelle du coup grâce à ce programme les personnes qui ont été mordues pour comprendre ce qui s'est passé, essayer d'identifier le chien. Et on appelle aussi le détenteur du chien. Donc ça, c'est ce qui se passait jusqu'en 2023. Mais pour 2024 et 2025, on n'a pas de financement. Donc le questionnaire est quand même toujours en ligne. C'est intéressant de remplir pour que l'information remonte qu'il y a eu des morsures. Mais on ne pourra pas faire l'action de rappeler les personnes, ce qui est fort dommage, parce que ça permet d'avoir un suivi et de ne pas laisser les personnes qui ont été mordues ou pincées avec ce traumatisme qui l'est. Donc voilà, mais c'est un programme qui est très intéressant, donc malheureusement qui n'est plus soutenu. Et on trouvait ça nous tenait à cœur de bien avoir ce suivi et de comprendre les circonstances et de limiter au maximum. Et donc on avait aussi cette année pour but de développer la sensibilisation en amont auprès des communes, des personnes pour comprendre les comportements des chiens et aider à ce que ça se passe le mieux en connaissant, en se disant que si on connaît comment réagir face à un chien de protection, ça peut limiter les incidents. Enfin, on dit qu'il y a au niveau des Alpes au moins 8000 chiens de protection, et pour autant, en Drôme, cette année, il y a 10 incidents qui nous ont été remontés.
Oui, c'était ma prochaine question, c'était de justement de savoir si c'était un sujet en fait qui prenait de l'ampleur, parce qu'on entend parler sans doute de plus en plus des patous. Est-ce que donc leurs chiffres, vous parlez donc de 8000 patous environ dans les Alpes, est-ce que c'est un chiffre qui est en augmentation ?
Oui, c'est un chiffre qui est en augmentation, tout à fait.
Et le nombre d'incidents également, ou alors est-ce que c'est relativement stable ?
Non, c'est relativement stable. Après, on est tout à fait conscient, la SD, qu'il y en a eu 10 en Drôme, hein, c'est possible qu'il y ait des événements qui ne nous ont pas été remontés. Mais de recensés, il y en a 10 pour l'année 2024. Et donc c'est un chiffre qui est stable et qui n'est pas forcément en augmentation, parce que je pense que les gens peut-être savent mieux comment se comporter. Il y a aussi eu une évolution, il y a 20 ans de ça, on disait qu'un bon chien de protection est un chien méchant, c'est plus le cas. Donc il y a une attention aussi particulière et les éleveurs se forment via notamment l'IDEL, l'Institut de l'élevage et le réseau des référents chiens de protection qui peuvent accompagner les éleveurs pour introduire un chien de protection dans le troupeau, parce que c'est pas facile, c'est pas un chien qu'on dresse comme un chien de compagnie. C'est vraiment, il y a un accompagnement qui est mis en place, et pas tous en font la demande et en profitent, mais certains éleveurs en profitent. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment, c'est des chiens à qui on demande beaucoup de choses. À la fois de protéger le troupeau 24/24, d'être aussi gentil avec les gens qu'il rencontre, de pouvoir se laisser manipuler par l'éleveur, parce qu'il faut que l'éleveur puisse lui faire les soins si besoin, l'amener chez le vétérinaire ou autre. Et on lui demande d'être sur le qui-vive tout le temps, de différencier un chien de compagnie d'un loup. Donc c'est quand même vraiment pas facile. Et contrairement à un chien... dans les chiens de travail, on va dire, on a donc deux sortes au niveau des brebis. On a les chiens de protection qui ont vraiment pour rôle de protéger les brebis. On parle de patou de manière générale, mais c'est un peu faux parce que le patou, c'est vraiment pour citer une race particulière qui est le chien des Pyrénées.
Le montagne, c'est ça, le montagne des Pyrénées.
Voilà, le montagne des Pyrénées. Et après, on a aussi d'autres races. Je les citerai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais dans les plus connues, il y a le Kangal ou berger d'Anatolie. C'est la même chose. On a aussi les K.O. Degado Transmontano, qui est un chien portugais. Et on a le Matin Espagnol.
Donc il est plus juste finalement de parler de chien de protection plutôt que simplement des patous.
C'est ça. Mais c'est vrai que dans le... si on parle de patous, on sait tous de quoi on parle. Mais oui, c'est un peu un abus de langage, on va dire.
Et alors vous parliez donc de la différence entre un patou et un chien domestique. Quelle est cette différence justement?
Et ben voilà, et du coup entre aussi un, on va comparer avec chien domestique, mais aussi un chien, le chien de berger, le chien de conduite, qui est le chien qu'on voit souvent avec le berger, qui est le chien qui va lui permettre de guider le troupeau, de le rassembler, de l'emmener à des endroits différents. Et ce chien va obéir comme un chien domestique au berger ou à l'éleveur. Donc c'est à ce chien qu'on va dire à droite, à gauche, ramène, voilà. Et donc lui, il va vraiment obéir, tout comme un chien domestique. Alors qu'un chien de protection, il n'y a pas comme objectif qu'il obéisse aux ordres du maître. Parce que le chien de protection, il est toujours avec le troupeau. Il naît souvent en bergerie, et il est auprès du troupeau dès son plus jeune âge. Et c'est sa famille, c'est les brebis.
Ah oui, il grandit donc, vraiment au sein d'un troupeau.
Oui, pour qu'il se familiarise avec les brebis. Et il ne faut pas qu'il aime plus l'homme que les brebis, parce qu'il faut qu'il reste toujours avec les brebis. Et donc lui, le chien de protection, il ne va pas obéir à un ordre. En fait, vu que l'éleveur ou le berger n'est pas forcément toujours avec le troupeau, il faut que le chien puisse tout seul savoir qu'il y a un danger et qu'il faut qu'il protège les bêtes. Donc il n'obéit pas à son propriétaire.
Mais alors, au-delà du lien affectif qui doit se créer avec le troupeau, donc si le chien de protection grandit donc au sein de ce troupeau, est-ce qu'il y a un dressage particulier pour ces chiens de protection?
Alors, c'est ça qui est compliqué de parler de dressage, parce que il doit en fait obéir à lui-même, en fait, son comportement de défense. Il ne doit pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui lui donne l'ordre. Donc, il n'y a pas vraiment de dressage. C'est plutôt une éducation qu'on fait petit à petit. Et encore, éducation, c'est un peu difficile à utiliser comme terme. C'est vraiment qu'il soit toujours avec les bêtes et après faire au mieux pour qu'il soit pas donc qu'on puisse quand même que le propriétaire puisse l'approcher, qu'il soit pas agressif envers les hommes, et pour autant qu'il défende le troupeau en cas de danger.
Mais ça va être donc plutôt le propriétaire du troupeau qui va se charger, donc en tout cas d'accompagner, je sais pas quel est le terme que vous utilisez, ces chiens pour justement essayer d'obtenir finalement le bon comportement à la fin.
Oui, c'est la personne. Alors justement, ce que vous dites, ça me fait penser que donc l'été peut y avoir souvent l'été, les chiens de protection qui sont mis avec le troupeau en estive et avec un berger. Et en effet, le berger va avoir un chien avec le troupeau qu'il connaît peut-être pas, sûrement pas d'ailleurs, que c'est pas lui qui a élevé, et pourtant qui va rester avec le troupeau. Et c'est le propriétaire du troupeau des brebis qui aura élevé avant.
Donc c'est à lui d'apprendre, en gros, au patou à se comporter ensuite de manière satisfaisante, donc à la fois avec le troupeau et avec les êtres humains qu'il va croiser.
Oui, et mais c'est un apprentissage qui est délicat parce que au niveau des éleveurs, c'est quand même complexe. Les chiens de protection, on sait que souvent, ben, les chiots, quand ils sont jeunes, s'ils sont seuls avec le troupeau, à 5-6 mois, ils jouent avec les agneaux, ils peuvent leur mordre les oreilles ou la queue, ça peut amener même jusqu'à ce que l'agneau soit mort, et c'est négatif et c'est compliqué à gérer, donc il faut éviter de mettre les chiens de protection avec des brebis qui ont fait l'agneau, qui ont mis bas. Et donc c'est toute une gestion aussi à... C'est pas uniquement introduire un chien de protection et le laisser avec le troupeau et puis advienne que pourra, il y a une gestion à avoir quand même qui est assez complexe.
Et alors on parlait du fait que les chiens de protection sont de plus en plus présents, est-ce que c'est en lien donc avec la prédation, peut-être avec la question du loup notamment ?
Tout à fait, parce que donc, si on a des chiens de protection, c'est parce qu'il y a un prédateur, donc vous venez de le citer, le loup. Et il y a différents moyens de protection qui sont utilisés, c'est la présence de l'homme, mais aussi la mise en place de parcs électrifiés et les regroupements nocturnes, et la présence de chiens de protection. Parmi ces différentes possibilités, celui qui fait le plus épreuve, c'est la présence de chiens de protection. Il faut qu'il y en ait un nombre suffisant selon le nombre de bêtes. Et il faut aussi qu'ils soient que des jeunes chiens parce qu'ils seront pas tout à fait aptes, pas non plus que des très vieux chiens parce qu'ils sont proches de la retraite. Donc il faut ceux qui sont dans la force de l'âge. Donc ça implique aussi ça qu'il y a beaucoup de chiens puisqu'il faut un peu de tous les âges pour pouvoir prendre la relève. Et en effet, c'est vraiment par rapport si les chiens de protection sont présents, c'est pas pour qu'il y ait des animaux en plus avec les brebis, hein, c'est vraiment par rapport à la protection contre le loup. Et les éleveurs, c'est compliqué pour eux d'avoir ces chiens. Et c'est nécessaire pour protéger les brebis, mais c'est vraiment un élément en plus complexe dans la gestion du troupeau.
Oui, j'imagine effectivement que c'est un facteur qui doit les préoccuper parce que donc c'est des chiens qui sont quand même impressionnants quand on est quand on se balade en fait en tant que randonneur et qu'on les croise, on n'est parfois pas très rassuré et leur attitude peut parfois paraître un petit peu agressive avec notamment des aboiements. Quels sont en fait les comportements, pour donner un peu une référence aux gens, quels sont les comportements normaux d'un patou? Est-ce qu'il y a des comportements en particulier qui doivent nous alerter?
Alors, et je reviens un peu aussi sur la question que vous m'aviez posée tout à l'heure par rapport à la différence entre un patou et un chien de compagnie. Les patous sont des molossoïdes, donc ils ont une carrure qui est une forte corpulence, ils sont assez gros, ils sont grands, ils ont des oreilles plutôt pendantes, une tête plutôt ronde, et ils ont un comportement de prédation en fait qui est atténué, contrairement à un border collie qui est... un des chiens de conduite qu'on peut citer. Donc, puis les border collies, ils vont en fait avoir un comportement de prédation, ils vont s'abaisser, et c'est ça qui va faire que les brebis vont en avoir un peu peur et aller donc plutôt à droite, à gauche, en fonction de là où se pose le chien. Alors qu'à l'inverse, les chiens de protection, ils ont plutôt une carrure qui va apaiser les brebis et ils vont être vraiment au milieu comme si c'était, entre guillemets, une brebis. Ils ont un déplacement plutôt calme, sauf si, bien entendu, il y a un danger. Dans ce cas, ils vont quand même pouvoir courir assez vite. Mais voilà, au niveau de la carrure, déjà, c'est quand même différent. Et il faut savoir que les chiens de protection, ils y voient net qu'à 5 mètres. Donc, ça explique le fait que quand ils entendent, par contre, ils ont une très bonne ouïe, un très bon odorat. Donc, quand ils entendent ou ils sentent un élément étranger, ils vont venir en aboyant, ce qui est tout à fait normal. C'est un comportement de dissuasion, il alerte, il s'interpose. Donc il va s'approcher du randonneur ou de la randonneuse en donnant l'alerte. Et donc il va s'approcher près pour pouvoir identifier si c'est un danger ou non. Et à ce moment-là, il faut pas, bien que ça puisse faire peur, je suis tout à fait d'accord d'avoir un gros chien qui arrive en aboyant, à ce moment-là, il faut s'arrêter. Et déjà, si avant, on a pu contourner au maximum le troupeau pour éviter les bêtes, parce qu'il faut en aucun cas traverser le troupeau, qu'il y ait des chiens ou qu'il n'y ait pas de chiens d'ailleurs, On imagine si nous, on était en train de pique-niquer à un endroit, tranquillement, assis dans la pelouse, ça ne nous ferait pas plaisir qu'il y ait 15 personnes qui traversent au milieu. Les gens contourneraient, c'est logique. Donc là, c'est pareil avec les brebis. Même sans le fait qu'il y ait le chien, il ne faut pas contourner un trou, il ne faut pas traverser un troupeau. Parce qu'elles sont en train de, elles peuvent être en train de manger, de se reposer. Et si on traverse au milieu du troupeau, ça va les inquiéter. Donc de base, on ne le fait pas. Et en plus, s'il y a un chien de protection, il va prendre ça pour une agression. Parce qu'on va venir perturber le sens normal de ce qui se passe. Donc contourner au maximum le troupeau. Et puis si on s'approche du troupeau, attendre que le chien puisse nous identifier. Donc s'arrêter, respirer calmement, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que si nous on se déstresse, ben en face, ça apaise la situation. Comme avec une personne, si on est stressé, si on est agressif, la personne en face va se sentir agressée. C'est un peu pareil avec les chiens. Donc c'est d'être calme, de pas regarder les chiens dans les yeux, pour éviter en fait de lancer un défi. Comme avec une personne, si je m'approche de vous très près, que je rentre dans votre bulle en vous regardant dans les yeux, vous allez penser que je vous agresse. Voilà, c'est la même chose. Donc, pas avoir une posture frontale, mais au contraire, un peu de côté, pas regarder dans les yeux, pas tourner le dos non plus. On peut bâiller, ça nous apaise nous, ça peut apaiser le chien aussi. Et aussi parler calmement au chien.
Et qu'est-ce qui va nous indiquer que le chien est prêt à ce que l'on reparte ?
Il va donc arrêter d'aboyer et il peut, soit il va rester, mais sinon il peut repartir tranquillement. Et par contre, si le chien continue d'aboyer, vous sentez qu'il s'apaise, vous faites quelques pas, s'il reaboie, et ben on recommence. On s'arrête, on reste calme. On peut mettre, si on a un sac à dos, on peut ne pas, c'est pas s'en servir comme bouclier, c'est juste le mettre entre le chien et nous pour qu'il puisse sentir ou voilà, que ça fasse une petite barrière, ça nous apaise nous aussi, ou une veste. Mais il faut vraiment pas se servir, si on a des bâtons de marge, il faut les garder le long du corps. Il faut pas s'en servir comme bâton pour taper sur le chien. Dans ce cas, il va prendre ça comme une menace, même si juste on l'élève. Si on est à vélo, il faut s'arrêter de vélo, descendre et mettre le vélo entre nous et le chien. Donc descendre du côté opposé où il y a le chien. Et attendre, c'est vraiment très important de s'arrêter quand on est en vélo. Parce que les chiens, avec les roues qui tournent, il y a des alertes et ils aiment vraiment pas ça, mais que ce soit les chiens de compagnie autant que les chiens de protection. Donc voilà. Et pareil, si on court, on peut rencontrer des personnes qui font des trails, par exemple, donc qui ont besoin d'avoir un chrono et qui veulent pas s'arrêter. Mais en fait, c'est important de s'arrêter pour que le chien puisse s'identifier, comprendre que c'est pas un danger, et puis après, on peut continuer la course.
Et si jamais on se promène soi-même avec un chien ?
Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire dans ce cas-là, c'est prendre le chien dans ses bras. Parce qu'en fait, si on le prend dans ses bras, on inverse. En fait, on vient intervenir dans l'ordre entre les deux chiens. Et du coup, le chien qu'on aura dans les bras va se sentir plus fort parce qu'il est dans nos bras et va avoir tendance à inciter l'autre. Et l'autre va essayer sûrement de sauter sur vous pour en fait se remettre à niveau. Et donc là, il faut surtout pas faire ça. Donc, si vous vous baladez avec un chien, bah, si vous savez qu'il y a des troupeaux, il faut éviter quand même d'aller dans ces zones-là. Voilà. Mais sinon, si vous y allez, c'est donc l'avoir attaché. Et par contre, une fois que vous êtes... si le chien arrive, le chien de protection, vraiment en face de vous, qu'il y a la confrontation, dans ce cas, il faut lâcher la laisse, voire lâcher le chien, et laisser les deux faire. Normalement, votre chien, s'il est bien... il a les codes canins, il devrait s'abaisser... Et tout devrait bien se passer.
Très bien. Donc voilà pour un peu un tour d'horizon des bons comportements finalement à adopter donc face à un ou plusieurs chiens de protection. À l'ADEME, donc pas seulement l'ADEME, d'ailleurs tous les services pastoraux de la région, vous avez créé donc en collaboration une plateforme, je crois, en ligne qui s'appelle Pasto Quesaco. De quoi s'agit-il exactement ?
Oui, donc c'est le réseau pastoral Aura qui a créé cette plateforme, qui en fait c'est donc un site internet, il y a aussi une page Facebook et Instagram, qui permet de retrouver énormément de documentation sur le pastoralisme, expliquer ce que c'est, donc Pasto Quesaco, avec aussi une boîte à outils pour les professionnels, que ce soit les offices de tourisme, les hébergeurs, avec différents documents, des photos libres de droit qui peuvent être réutilisées. Il y a aussi dessus le journal Pastour, qui est un journal édité une fois par an, notamment à destination des enfants, mais pas uniquement, pour parler de pastoralisme, la transhumance, les races, le pastoralisme en général. Il y a aussi des vidéos qui de sensibilisation sur le pastoralisme, les chiens, mais aussi il y a des micro-trottoirs pour parler du métier de berger et de tout ce qui touche au pastoralisme. Et on retrouve aussi la carte Map Patou, donc qui en fait est une carte, une plateforme interactive qui permet de localiser les troupeaux gardés par des chiens de protection. En fait, donc l'objectif est que les gens puissent aller sur cette carte afin de voir s'ils sont susceptibles de rencontrer des chiens, donc avant, quand ils préparent leur randonnée. Bien entendu, la carte, c'est possible que ce soit pas indiqué qu'il y ait des chiens de protection à cet endroit-là et qu'il y en ait, enfin qu'il y ait des troupeaux gardés.
D'autant plus que parfois, ils bougent, en fait. Ce sont des troupeaux qui viennent dans un champ temporairement.
Voilà, mais du coup, pour éviter ça, là, on est uniquement sur des zones d'estive. Donc, il y a 5000 estives recensées au niveau de la région Aura, sur Map Patou, mais c'est que les estives, donc les alpages, c'est pas les zones au niveau des fermes, les parcours. Justement, parce que comme vous dites, c'est possible qu'ils viennent dans un champ pour 2-3 jours, et puis qu'ils se déplacent. Donc, c'est pas pour cette zone-là, c'est plutôt pour vraiment les grandes estives, avec des quartiers définis. Et mais ça reste quand même des dates indicatives et il n'y a pas de responsabilité prise par les services pastoraux à indiquer ces dates-là. C'est juste à titre indicatif pour essayer d'avoir le plus d'informations possible et aussi d'être préparé au fait de rencontrer des chiens. Donc sur le Map Patou, il y a des messages de sensibilisation et des bons comportements à adopter. Mais voilà, ça aide à savoir s'il y a des chiens de protection ou non, mais vraiment au niveau des estives. Et donc cette carte a été réalisée grâce à l'appui technique d'INRAE.
Donc la carte Map Patou, donc on peut retrouver sur le site internet qui s'appelle donc Pasto Quetzaco.
Tout à fait. En plus, il y a des partenariats qui sont en train de se faire avec des applications de outdoor afin que les personnes qui utilisent les applications comme par exemple WhatsApp, le partenariat est déjà fait. En allant sur WhatsApp, on retrouve aussi les données de Map Patou pour que les personnes puissent directement avoir l'information. On retrouve les données et des messages de bonnes pratiques.
Eh bien, merci beaucoup Maëva Donadieu. Donc, je le rappelle, vous êtes technicienne pastorale à l'ADEME, l'Association départementale d'économie montagnarde de la Drôme, et vous nous apportiez donc une vision un peu d'ensemble sur les patous, les chiens de protection des troupeaux. Très bonne journée à vous.
Merci, au revoir.